Non, une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Reste un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette année, je me suis entouré d'une team de journalistes éco pour décortiquer avec moi encore plus de sujets. Aujourd'hui, je vous présente Robin, un jeune journaliste de 26 ans. Salut Robin.
Bonjour Emmanuel.
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Oui, bien sûr, je suis journaliste indépendant, spécialisé en sciences économiques et sociales depuis maintenant 2 ans. Je m'intéresse également à toutes les questions liées au climat, à la biodiversité, et autant vous dire que cette année, je compte bien vous en parler.
Très bien. Aujourd'hui, pour ton premier épisode, tu vas nous parler du rail, de yield management et de péage ferroviaire. Et je crois que pour commencer, tu voulais nous causer de tes vacances.
Exactement, et plus généralement de celles et ceux qui ont eu la chance cet été de changer un peu d'air en France. Ceux qui n'ont pas pu, par manque de temps ou d'argent, force à vous. Moi, j'habite Bruxelles et j'avais prévu de rentrer quelques jours en famille dans mes montagnes grenobloises. Alors, un mois à l'avance, je regarde les prix de TGV et autant vous dire que j'ai un peu bugué. Plus de 250 euros l'aller-retour et ce, même avec ma carte jeune. D'un point de vue écolo, je n'avais pas envie de prendre l'avion qui était de toute façon plus cher et le bus ou le covoiturage me semblait interminable. Alors, j'ai fini par prendre mes billets de train. Par curiosité, je me suis rendu sur les réseaux sociaux pour voir si d'autres personnes avaient la même sensation que moi. Que le train, ça coûte de plus en plus une blinde. Sans surprise, je n'étais pas seul. Alors, j'ai décidé de m'y intéresser à ce prix du train français. Comment est-il fixé et est-il si cher que ça ? Et puis, je me suis demandé s'il était possible de réduire son prix, voire de le rendre gratuit pour tous et toutes. D'autant que le train est un véritable allié pour le climat. Pourquoi les billets de train coûtent-ils une blinde ? Tout d'abord, le prix du train français est-il intéressant par rapport aux autres modes de transport ? Eh bien, non. Ou du moins, pas tous les trains et pas tout le temps. Mais une étude de l'Agence de régulation des transports montre que le TGV est en moyenne le deuxième moyen de transport le plus cher derrière l'avion classique.
Et en ce qui concerne les TER et intercités ?
Eh bien, ils sont en moyenne moins chers. La raison est simple, ces trains sont subventionnés et leur prix reste stable. Par exemple, lorsque vous achetez un billet de TER, vous ne payez que 25% de son coût réel. Le reste est pris en charge par les régions. Pour les TGV, la philosophie est tout autre, car la SNCF ne reçoit aucune subvention directe pour ces lignes à grande vitesse. Pourquoi ? Simple choix politique pris dans les années 80, nous ont répondu différents experts. Ainsi, pour fixer les billets de TGV et pour être rentable, la SNCF a recours à la technique du yield management. C'est ce que m'a expliqué Jean Finez, maître de conférence en sociologie économique à Grenoble.
C'est une technique de tarification en temps réel qui permet de faire varier les prix en fonction des niveaux d'offres et de demandes. Par exemple, dans le cadre de l'application du yield management au transport ferroviaire, la pratique consiste à faire varier le prix du billet en fonction du taux de remplissage des trains.
Ainsi, comme les billets d'avion, le prix des TGV varie en fonction de la date d'achat et de la période de voyage. Plus le train sera demandé, plus le prix sera élevé. Mieux vaut donc prendre son billet 3 mois à l'avance pour un départ un mardi en plein milieu de l'après-midi au mois de janvier.
On n'est pas bien ? À la fraîche ?
C'est donc quand les usagers occasionnels ont le plus besoin du train qu'il devient inaccessible. Peut-on savoir maintenant si le prix du train a augmenté ?
Pour cela, on peut regarder l'indice des prix transport ferroviaire de passagers construit par l'INSEE. Tout d'abord, entre 1990 et 2019, le prix a bondi de 80%. Ensuite, entre avril 2019 et avril 2022, le prix aurait augmenté de 2,1% avec une grosse augmentation en 2022 après 2 ans de baisse à cause du Covid. Mais les chiffres que je viens de vous présenter sont à prendre avec précaution. Parce que de l'autre côté, la SNCF annonce, elle, une baisse de 7% de ses prix entre 2019 et 2022.
Comment c'est possible ?
Eh bien, parce que les méthodologies sont différentes. D'un côté, l'INSEE prend en compte les effets du yield management, les TGV low cost, les cartes de réduction, mais ne peut recueillir que les prix affichés sur Internet. De l'autre, la SNCF prend en compte le nombre de billets effectivement vendus et le divise par les recettes que cela lui a rapportées. Cette différence d'évaluation signifierait une chose, que la SNCF a vendu plus de billets à prix cassé et moins de billets chers que ne l'imagine l'INSEE, soit grâce à son offre low cost Ouigo, soit grâce à des cartes de réduction, ou alors parce que les usagers exploitent parfaitement bien les règles du yield management.
En gros, il est difficile d'avoir le prix moyen d'un billet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, les prix affichés par la SNCF augmentent, et même ceux avec carte de réduction. Ce qui est moins sûr, c'est que le prix moyen du billet vendu augmente.
Mais alors, le prix du train est-il trop cher ?
C'est une question qui se pose, en effet. Mais la réponse est très politique et subjective. Pour y répondre, on peut essayer de voir si le prix du billet français classique coûte plus cher que celui de nos voisins. Il existe une étude réalisée en 2016 par GoHero, un comparateur de voyages. Selon elle, au niveau européen, le train français serait le 5e plus cher.
Mais alors pourquoi le prix est-il plus cher que chez la plupart de nos voisins, alors que la SNCF est une entreprise publique ?
C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif, en effet. Mais même si la SNCF est une entreprise publique, détenue à 100% par l'État, et oui, elle suit une logique d'équilibre financier et de rentabilité. C'est ce que m'a expliqué Jean Finesse.
Entre 1938 et la fin des années 60, le début des années 70, la politique de l'État, elle consistait à faire de la SNCF un levier de modernisation et de reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale. En gros, la SNCF, ça coûtait de l'argent, mais c'est normal, parce que ça sert le pays. Ça sert à son développement industriel, etc. C'est aussi une vitrine, ça permet aux gens de voyager, de planifier, enfin, vous voyez, à manager le territoire, plein de choses. Et de ce point de vue-là, oui, effectivement, on ne gagne pas d'argent, parfois on en perd, mais il y a une subvention d'équilibre votée annuellement par le Parlement.
Ainsi, chaque année, les caisses de la SNCF étaient renflouées et le prix restait fixe. Mais à la fin des années 60, tout a changé. L'État a donné plus d'indépendance à la SNCF tout en lui imposant des règles de flux et d'investissement. Mais surtout, une philosophie économique s'est imposée. Certes, la SNCF reçoit tout un tas de subventions et d'aides, l'État vient parfois à sa rescousse, mais l'entreprise doit s'autofinancer au maximum pour viser l'équilibre tout en assurant la gestion de son réseau.
Donc l'État essaie de faire en sorte que la SNCF ne lui fasse pas éponger ses pertes, mais du coup, qu'est-ce qui pèse lourd aujourd'hui dans le prix du billet ?
On pourrait résumer cela comme ça. Le prix d'un billet, c'est un tiers pour le matériel, la formation, les impôts et l'énergie, un tiers pour les cotisations sociales et les salaires, et un tiers pour le péage de circulation. Pour les TGV, le péage, c'est d'ailleurs plus 40%.
Le péage ?
Oui, vous le payez à chaque fois que vous prenez le TGV. Pour les TER et Intercités, les régions et l'État passent à la caisse. Celui-ci correspond au coût payé par SNCF Voyage pour rouler sur les voies. Cet argent revient à la filiale SNCF Réseau qui se charge de l'entretien et de régénérer l'infrastructure. Cette recette perçue est calculée en fonction de multiples critères, mais globalement, plus le voyage est long, plus le prix du péage est important. Sauf qu'en France, ces péages coûtent très cher. J'en ai discuté avec Christian Desmaris, maître de conférence à Sciences Po Lyon et membre du laboratoire Aménagement Économie Transport.
La structure des péages. En fait, la différence, par exemple, de l'aérien, dans le ferroviaire, le coût est largement impacté par des frais d'usage de l'infrastructure. Quand vous êtes dans l'air, qui paie la pollution de l'air ? Aujourd'hui, personne. C'est ce qui est un scandale. En toute logique, le prix devrait refléter les coûts. Alors, il le fait dans le ferroviaire et le niveau des péages est extrêmement élevé, ce qui fait que sur certains billets, globalement, la moitié du prix du billet est absorbée par le prix des péages.
Les péages ferroviaires sont en France les plus élevés d'Europe. Pas moins de 8 euros par kilomètre, soit près de deux fois le prix moyen des péages européens. En cause, un entretien coûteux et une SNCF très endettée qui cherche à l'être moins. Et devinez quoi ? Le prix des péages pourrait encore grimper et le prix des billets avec.
Encore ? Ça fait beaucoup là, non ?
Et cela alors que l'État a récemment effacé une part importante de la dette de l'entreprise. Pourtant, SNCF Réseau prévoit une hausse du prix de ses péages. Deux raisons. L'envolée des prix des matières premières et la nécessité de renouveler les vieilles voies françaises. Pour comparer, les voies du réseau allemand ont 17 ans en moyenne, alors qu'en France, elles en ont 30, soit deux fois plus.
Mais du coup, est-ce qu'on pourrait rénover les voies sans pour autant augmenter le prix des billets en France ?
Oui, bien sûr. Mais pour cela, il faudrait que l'État mette la main à la poche. Certes, il le fait déjà. Récemment, l'État a accepté d'investir chaque année, jusqu'en 2030, 2,84 milliards d'euros pour le rail. Mais selon plusieurs experts, il manquerait 1 milliard d'euros pour le faire correctement. La France pourrait faire comme l'Italie, par exemple. Là-bas, le gouvernement paie lui-même la maintenance de ses voies. Du coup, le péage pour un Rome-Milan est près de 4 fois moins cher que pour le Paris-Lyon. Et grâce à cela, l'Italie a vu ses prix baisser et le nombre de ses trains en circulation augmenter.
Bon, maintenant, au vu de l'intérêt écologique du train, serait-il possible de le rendre gratuit ?
Ce qui est certain, c'est qu'au moment où le réchauffement climatique est devant nos yeux, où les scientifiques nous demandent de moins prendre l'avion et la voiture, il est clair que la question se pose. Mais en France, on en est loin. Pour le moment, c'est d'ailleurs plutôt l'inverse qui se profile. En plus du surcoût lié au péage, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, a déjà annoncé que ses tarifs augmenteraient en 2023, en cause l'envolée des coûts de l'énergie. Pourtant, la gratuité, au prix très attractif, ça se fait ailleurs en Europe. Vous en avez peut-être entendu parler, mais l'Espagne a déjà sauté sautait le pas, du moins temporairement. De septembre à décembre, les trains régionaux et de banlieue seront gratuits. Cette mesure vise à atténuer les effets de l'inflation actuelle et à favoriser des déplacements plus respectueux de l'environnement. Coût de la mesure, 431 millions d'euros. En Allemagne aussi, les voyageurs ont pu profiter de prix cassés pendant l'été. 9 euros par mois pour voyager sur les réseaux régionaux et locaux. Toujours pas les grandes lignes, vous aurez remarqué. Coût, 2,5 milliards d'euros tout de même, mais avec des résultats plus que prometteurs. 52 millions de tickets vendus sur la saison et transfert de 10% du trafic de la route vers le rail. Petit bémol, des gares bondées et des trains surchargés.
Et est-ce qu'on sait si le gouvernement allemand souhaite rendre cette mesure pérenne ?
Non, pas encore. Mais au vu de la réussite du processus, c'est en discussion. Selon les Échos, une idée circule pour prolonger l'opération avec un abonnement mensuel allant de 49 à 69 euros, valable dans toute l'Allemagne. Des exemples au niveau européen, il en existe d'autres. On aurait pu parler du Luxembourg, qui est devenu en 2020 le premier pays à rendre les transports publics gratuits, pour tous, sur l'ensemble de son territoire. Ou encore de l'Autriche et de son Klimaticket, qui donne accès à tous les transports en commun du pays pour 3 euros par jour. Et alors, pourquoi pas en France ? J'ai posé la question à Jean Finez.
Le train est gratuit, ça veut dire qu'il faut le financer. Ça veut dire qu'on finance le transport des voyageurs uniquement par le biais des impôts du contribuable. Ça veut dire qu'il y a un découplage entre l'usage et le financement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui paieront pour ne pas voyager et des gens qui voyageront et qui paieront peu. Je trouve ça assez séduisant. En pratique, je ne sais pas combien ça coûterait. Du point de vue de la politique actuelle de l'État, j'ai un doute que c'est dans cette direction que l'on va, puisque la logique est celle de auto-financement de la SNCF.
Mais tous les camps politiques ne sont pas d'accord. En mars dernier, Jean-Luc Mélenchon souhaitait instaurer, je cite, « la gratuité totale des transports en commun aussi longtemps que dure la crise des carburants ». Même son de cloche chez Yannick Jadot en mai dernier. En tout cas, la gratuité, Christian Desmarie n'est pas pour.
Moi, je suis pas par principe nécessairement favorable à la gratuité, je vous le cacherai pas. Je pense qu'en France, on a déjà beaucoup de services publics. Il est important pour moi que celui qui sollicite un service ou un bien soit conscient du coût et du prix de ce bien. Et après, faut bien que quelqu'un assume le coût de cette production. Franchement, la grande vitesse est un service qui a une valeur en termes d'économie de temps extrêmement grande. Moi, je ne vois pas pourquoi on reporterait sur le contribuable l'usage de ce service.
D'autant qu'il affirme que des prix attractifs, la SNCF en propose tous les jours et que l'entreprise est déjà bien assez subventionnée. Pour cela, il reprend les résultats d'une étude de 2019 réalisée par l'ancien magistrat de la Cour des comptes, François Eckhall, que l'on a déjà reçu dans Splash à propos des fonctionnaires. Celui-ci affirme que le coût total de la SNCF pour l'État et les régions s'établissait à 16,7 milliards d'euros en 2020. Finalement, le voyageur paierait moins de 20% du coût réel.
Alors, quels pourraient être les problèmes auxquels nous pourrions être confrontés si demain le train financé par l'État devenait gratuit ?
Concrètement, la question à se poser serait comment financer tout ça tout en rendant la SNCF plus efficace ? Imaginons que nous décidions demain de financer la gratuité via un impôt commun ou via une taxe sur les transports polluants. Pourquoi pas ? Mais comment expliquer cela à ceux qui ne prennent quasiment jamais le train ou à ceux qui n'ont aucune gare à proximité ? D'autant que ceux qui voyagent le plus sont souvent les plus privilégiés. Une autre question se pose. Dans l'état actuel des choses, y aura-t-il assez de train pour accueillir une quantité importante de nouveaux voyageurs ? Non, m'ont répondu les deux experts interrogés.
Si la version service public gratuit n'est pas convaincante, est-ce qu'il y aurait une solution plus libérale pour faire baisser les prix ?
Oui, bien sûr. Certains économistes, comme Christian Desmarie, plaident pour l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence. En réalité, le marché est déjà ouvert en France depuis 2019. Mais là encore, il faudra baisser le coût des péages si la France souhaite attirer des entreprises ferroviaires sur son territoire. Car pour le moment, le marché français n'intéresse pas grand monde. À ce stade, seul l'opérateur italien Trenitalia concurrence la SNCF sur le Paris-Lyon. Et pour s'installer, l'Italien a même obtenu une ristourne pour 2 ans sur le péage.
Messieurs, on peut aussi faire une ristourne !
Preuve que le péage français coûte cher. Dans la logique libérale, l'ouverture à la concurrence permet d'augmenter l'offre de trains, donc d'augmenter les recettes pour SNCF Réseau qui pourra améliorer les infrastructures, et à terme, ça fait baisser les prix. Alors, comment ça marcherait, Christian Desmarie ?
En fait, il faut partir de l'idée qu'il y a deux types de concurrence. Il y a ce qu'on appelle la concurrence sur le marché, c'est-à-dire celle sur laquelle les opérateurs intéressés par le business peuvent se présenter à partir du moment où ils répondent aux conditions de sécurité, aux conditions réglementaires. Et dans le cas du ferroviaire, c'est ce qui se passe sur la grande vitesse depuis décembre 2019. Après, deuxième type de concurrence, c'est ce qu'on appelle la concurrence pour le marché. Alors, la concurrence pour le marché, elle a commencé à s'ouvrir en décembre 2019. Elle sera, et toute région devra soumettre chaque nouveau contrat à un appel d'offres à partir de décembre 2023. Donc, c'est un processus qui est en cours, dont les effets sont loin d'être produits. D'autant plus que quand une région fait le choix politique d'ouvrir un segment, la construction de cette production, mais de l'ordre de 4 ans. Donc, vous voyez, pour le moment, il n'y a aucune région qui fasse circuler des trains autres que les trains de la SNCF.
Mais attention, la libéralisation n'est pas tout le temps synonyme de réduction des prix. L'exemple du Royaume-Uni reste dans tous les esprits. Pour rappel, après avoir privatisé tout son système au milieu des années 90, le Royaume-Uni a déchanté. En cause, d'innombrables retards et un prix du billet qui s'est envolé. Dans d'autres pays, comme en Allemagne ou en Italie, la libéralisation a plutôt bien fonctionné, même si aujourd'hui les infrastructures ne sont pas au top et que les retards sont récurrents. C'est notamment le cas en Allemagne. Et cette politique a eu au moins une autre conséquence, une réduction et une précarisation de la masse salariale. Pour Christian Desmarie, il serait d'ailleurs intéressant pour le ferroviaire français de réduire les coûts liés à cette masse salariale, de la rendre plus efficace et de baisser les coûts de fonctionnement. Ça pourrait également faire baisser les prix. C'est d'ailleurs dans cette optique que le gouvernement a décidé de réformer le statut des cheminots. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Encore une fois, c'est une question politique. On pourrait également craindre que l'ouverture à la concurrence ne laisse de côté les petites lignes du quotidien, peu rentables. En tout cas, il semble que si la France souhaite baisser les prix tout en améliorant son réseau, l'État devra, un moment ou un autre, mettre davantage d'argent sur la table.
Merci Robin. Je retiens qu'on est obligé de payer pour continuer à avoir des trains qui circulent sur un réseau bien entretenu, avec du personnel compétent. Toute la question est de savoir qui est ce fameux « on ». Si vous aussi vous avez aimé cet épisode, et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, cela nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast produit par Nouvelles Écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin, chargé de production Mathilde Jonin, avec l'aide de Xavier Kamaki, prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio, directrice des productions Marion Gourdon.